Merci. Bonjour. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent un peu partout ce matin. J'ai entendu qu'il y avait des gens de Rosemère, la région de Laval, et des gens d'un peu partout. Et bienvenue. C'est ça la part, hein? On visite la famille et on visite les gens qu'on connaît. C'est vraiment agréable. Et je vous souhaite joyeuse Pâques aussi. C'est une journée spéciale et nous voulons vraiment célébrer ce matin cette fête de Pâques qui nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on veut célébrer, c'est une fête. Et on veut se le rappeler régulièrement, évidemment. Et la semaine dernière, ce que nous avons fait, nous avons regardé le psaume 22 et nous nous sommes vraiment arrêtés sur la mort de Jésus-Christ, sur la crucifixion de Jésus-Christ. Une description assez détaillée, d'ailleurs même plus détaillée dans le psaume qu'ailleurs dans le Nouveau Testament, assez détaillée des souffrances de Christ, et comment Jésus se sentait là sur la croix. Et nous nous sommes arrêtés sur justement la mort ou la crucifixion de Jésus-Christ. Mais le message de Pâques ne s'arrête pas là, évidemment. Ce serait une erreur que de mettre l'accent que sur les souffrances de Jésus-Christ et de sa mort, sans parler de la résurrection. L'auteur de l'Évangile de Jean, c'est-à-dire l'apôtre Jean, nous donne une bonne description, vraiment tout à fait sublime, de la résurrection de Jésus, alors qu'il nous montre que la croix n'était pas une fin en soi, mais qu'une étape dans l'histoire de la rédemption. Par exemple, dans le livre aux Hébreux, nous apprenons ce passage, Hébreux 12, qui dit « En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y rattachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. En échange de la joie qui lui était réservée à Jésus, Jésus a enduré la croix. Maintenant, oui, le message de la croix est essentiel. Nous avons besoin de regarder la croix. C'est essentiel. C'est au cœur vraiment de l'Évangile parce que c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés de nos péchés et des conséquences de nos péchés. C'est grâce à la croix qu'on peut échapper au jugement éternel et passer l'éternité avec Dieu. Nous voyons donc la gloire de Jésus à la croix, montrant la parfaite obéissance de Jésus-Christ envers son Père, alors qu'il passe à travers le chemin, le jardin de Gethsémané, et qu'il va souffrir jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort. On voit également à la croix l'amour de Dieu pour l'humanité et la substitution pour nos péchés. D'ailleurs, avec la croix, nous avons la substitution, c'est-à-dire que Jésus prend notre place. Nous avons l'expiation, c'est-à-dire le paiement que l'on avait, qu'on devait faire, une dette que l'on avait à cause de notre rébellion contre Dieu. On voit la rançon, ce paiement qui a été fait, notre place. On voit la justification, c'est-à-dire que nous sommes justifiés en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la rédemption. La propitiation, c'est-à-dire que Dieu est rendu propice. Dieu est en colère contre les pécheurs rebelles qui ont tourné le dos à Dieu. Mais Dieu a été rendu propice, c'est-à-dire que maintenant nous avons la paix avec Dieu par grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons l'adoption, c'est-à-dire que quand tu places ta foi en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, tu fais partie maintenant d'une belle famille qui est l'Église. Nous avons l'onction, la sanctification, la glorification, quand nous allons entrer dans l'éternité. Et nous avons la révélation aussi. Grâce à l'Esprit Saint, maintenant, il enlève le voile sur nos yeux pour comprendre sa révélation qui est la parole de Dieu. Alors, d'où cette parole de Jésus à la croix lorsqu'il dit « Tout est accompli ». Vraiment, tout est accompli. Parce que la croix est le moment crucial et critique de l'histoire et l'essentiel vraiment de la foi chrétienne. On ne peut pas ignorer la croix. Un théologien résume bien la gloire de la croix lorsqu'il dit « La croix, c'est le grand joyau de la foi chrétienne. » Alors oui, on s'incline devant la croix en toute humilité, avec adoration devant le Jésus crucifié. Mais si tout est accompli à la croix, Jésus poursuit son œuvre de gloire encore aujourd'hui, alors qu'il est entré dans la présence de son Dieu, de son Père, et il est assis à la droite de Dieu. Et Jésus retourné à son Père, maintenant intercède pour nous, pour chacun de ses enfants, et il règne. Watchman Nee a dit ceci, il dit « Notre ancienne histoire, notre ancienne vie, notre passé termine à la croix, notre nouvelle vie commence à la résurrection. » la puissance de la vie divine est révélée à la résurrection. Comme le dit Mark Driscoll dans son livre « Death by Love », sans résurrection, pas de puissance. La résurrection prouve également que le Père est satisfait du sacrifice offert par Jésus-Christ. La résurrection est à la base de notre régénération et notre nouvelle vie. Et ça nous garantit notre propre résurrection que nous allons avoir lorsque nous allons entrer dans l'éternité. Alors Jésus est retourné vers son Père, ce qu'on appelle l'ascension, et il a été exalté comme le roi des rois. Il a vaincu Satan, vaincu la mort, vaincu les démons, vaincu l'ennemi. Alors qu'il est venu dans le monde humble, un simple paysan de Galilée, Jésus est maintenant dans la gloire, dans sa gloire, comme le Fils de Dieu, qui vaincra contre tous ses ennemis lors de son retour. C'est notre espoir. Et comme le souligne un article que je lisais cette semaine, l'espoir, dans le fond, c'est pas une chose. L'espoir, c'est une personne. L'espoir est un qui. C'est Jésus-Christ. Et cet espoir se voit d'une façon frappante dans une des histoires que l'on va retrouver. Un événement qui a eu lieu juste après la résurrection de Jésus avec Marie de Magdala. Et j'aimerais qu'on arrête et on regarde l'histoire de cette femme et ce qu'il se passe. La rencontre de Jésus et Marie a lieu juste après la résurrection de Jésus. C'est la première apparition de Jésus après qu'il soit revenu à la vie. Marie va arriver face à face à Jésus. Elle n'a aucune espèce d'idée que c'est lui. Elle ne le reconnaît pas. D'ailleurs, elle pense que c'est un jardinier. Et nous allons regarder cette rencontre de Marie. Mais comme le souligne le commentateur Moloney, il dit cette histoire est capitale, elle est très importante parce qu'elle révèle, en fait, et c'est le point central de tout cet événement qui a lieu avec Marie de Magdala que nous allons regarder ensemble, elle révèle que c'est vraiment Jésus qui se révèle à Marie. Elle n'est pas capable de le reconnaître sans son intervention, son aide. On voit Marie, elle va être en deuil, elle pleure, elle est au sépulcre, et même lorsqu'elle voit le sépulcre vide, elle pense même qu'il y a eu un acte criminel où le corps aurait été enlevé, kidnappé en quelque sorte, le corps mort aurait été enlevé. Elle va même accuser le jardinier, qui est en somme Jésus, d'avoir pris le corps. Alors elle est découragée, c'est la déception, c'est les larmes. Mais quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'elle a vu Jésus, lorsqu'elle a réalisé qui était Jésus. Jésus se révèle à elle et ça a été une histoire touchante. Alors qu'elle va se jeter à ses pieds, va s'agripper à Jésus lorsqu'elle le reconnaît, elle voit que c'est lui. Et c'est une histoire très émouvante puisque d'une part on voit sa douleur, sa souffrance, elle est en deuil et un petit moment plus tard, on la voit toute joyeuse et heureuse lorsqu'elle réalise que c'est Jésus. Et le point central de tout cet événement, c'est en quelque sorte l'auto-révélation de Jésus, alors que Jésus va se révéler à elle. C'est Jésus qui va se révéler à Marie, c'est pas elle qui le découvre. Cette histoire est importante non seulement parce qu'elle s'est réalisée, mais parce qu'elle nous enseigne sur la foi. De fait, nous allons apprendre trois choses sur la foi ici à travers cet événement avec Marie. Nous allons nous apercevoir finalement que la foi s'enracine dans la vérité. Ce n'est pas une foi aveugle, crédule, c'est vraiment une foi qui s'enracine et qui repose sur la vérité. La foi aussi, on va voir, relève de la grâce de Dieu. Et aussi, elle fonctionne dans l'amour. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais vous encourager à venir me rejoindre dans ce passage que nous allons lire dans Jean chapitre 20. Et j'aimerais prendre la lecture au verset 11. C'est juste après la résurrection. Il y a des allées et venues, là. Ils sont allés avec les disciples et tout ça, Marie avec d'autres femmes. Il y en a qui sont partis. Marie est là. Elle reste là, elle, Marie. Et on va prendre la lecture au verset 11. Jean 20, verset 11. Bon, verset 10 dit ensuite les disciples repartirent chez eux. Et verset 11, cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où elle avait été couchée, où avait couché le corps de Jésus, un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle lui répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourne et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, qui est l'équivalent dans l'Antiquité, l'équivalent à Monsieur. Alors, Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Eh bien, la foi repose sur la vérité. Il est clair que personne ne s'attendait vraiment que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Évidemment, il n'y a personne qui est là à attendre que Jésus soit vivant. Et pourtant, Jésus l'avait annoncé plusieurs fois. Là. Jésus avait dit plusieurs fois à travers les quatre évangiles, quand on regarde les quatre évangiles, Jésus avait déjà préannoncé d'avance qu'il allait ressusciter, qu'il allait mourir et revenir à la vie. Il l'avait prédit, il l'avait dit à ses disciples, il avait préparé ses disciples. Et pourtant, on ne voit pas personne là qui attend la résurrection de Jésus-Christ, au contraire. Même si Marie reste là, les disciples sont partis, mais même si Marie reste là, même en voyant le tombeau vide, sa conclusion, c'est que quelqu'un est venu prendre le corps. Donc, vraiment, là, personne n'est là pour s'attendre à la résurrection. Là. Et pourtant, Jésus avait déjà annoncé de son vivant plus d'une fois qu'il allait revenir à la vie. Par exemple, dans Luc 9, nous lisons, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il leur avait dit ça. Encore, dans Luc 18, Jésus prit les douze avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on va cracher sur lui. Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir le troisième jour, il ressuscitera. » Est-ce que Jésus l'avait dit? Jésus avait dit exactement cela, là, exactement en détail, qu'il allait ressusciter. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Jésus avait déjà prédit qu'il allait revenir trois jours après sa mort. Il allait ressusciter d'entre les morts. Ça fait maintenant trois jours, c'est le troisième matin. Et personne n'est au sépulcre, ils sont partis. Et Marie est là seule, mais quoi, qu'est-ce qu'on la voit? Comment on la voit? On la voit en deuil, en train de pleurer, désespérée, elle n'a plus d'espoir, elle est démolie, son monde vient de briser. Elle se sent même abandonnée par Dieu. Elle se rend au sépulcre, il est vide. Mais elle pense que le corps a été enlevé. Bien des gens aujourd'hui ont de la difficulté à croire à la résurrection de Jésus-Christ. Après tout, nous sommes des gens modernes, sophistiqués. Alors, croire au surnaturel, on a de la difficulté avec ça. Mais vous savez, il faut réaliser qu'à l'époque, les gens avaient autant de problèmes que nous à croire à la résurrection, là. Les gens étaient aussi intelligents que nous autres, là. Peut-être pas un monde moderne que nous avons, mais c'est vraiment étonnant quand tu regardes, tu étudies l'archéologie, puis tu vois les inventions que ces gens-là faisaient, tous les courants d'eau, les systèmes d'aqueduc et tout ça. Écoute, les quotients intellectuels n'étaient pas plus bas dans le temps, là. C'est des gens aussi intelligents que nous autres, là. C'est juste que les inventions n'étaient pas toutes faites et tout ça, mais c'était des gens quand même, ils savaient, quand un mort est mort, il est mort. Ils savaient reconnaître un mort. Et les gens, dans ce temps-là, ça en prenait pas mal pour les convaincre d'une résurrection. Ils avaient des doutes, eux autres aussi. C'était inconcevable pour eux, comme pour nous aujourd'hui dans notre monde moderne. Mais certaines évidences étaient assez fortes pour les convaincre que Jésus était bel et bien ressuscité. Ces mêmes personnes-là intelligentes, aussi intelligentes que nous, là. D'accord? Ça me fait penser à cette femme qui est chez elle, qui est dans la cuisine, regarde à travers la fenêtre, puis finalement, elle voit son chien, c'est un gros berger allemand immense, elle regarde son berger allemand, puis il y a un lapin dans la bouche, qui est en train de le secouer, à droite et à gauche. Puis là, d'un coup, elle panique, parce qu'elle réalise que son chien est en train de tuer le lapin de la voisine. Puis ça allait vraiment pas bien, déjà là, avec la voisine. Sa relation avec la voisine, là, c'était, ça allait vraiment pas bien. Et là, elle panique. Elle prend un balai, sort dehors, va voir le chien, le berger allemand, il donne des coups de balai pour qu'il lâche le lapin. Finalement, le lapin, il est mort. Elle se dit, ça n'a pas de bon sens, ça va déjà mal avec ma voisine, je peux pas laisser ça de même. Fait qu'est-ce qu'elle décide de faire? C'est de prendre le lapin, rentrer en cachette chez elle, laver le lapin qui est mort, prendre un séchoir à cheveux, puis le peigne pour que ça soit tout beau. Puis tranquillement, ce qu'elle fait, elle prend le lapin, elle s'en va dans le cour délicatement de la voisine, ouvre la cage du lapin, remet le lapin tout beau, mort, dans la cage, ferme la porte et tranquillement, presque sur le bout des pieds, traverse la cour, s'en va chez elle. Après environ une heure, elle entend crier, la voisine crie. Elle sort dehors, elle va voir sa voisine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon lapin a ressuscité. Elle dit, il est mort il y a un mois, on l'a enterré. Puis là, il est là dans sa cage, tout beau. C'est évident que ça n'a pas pris 30 secondes qu'elle réalise que son lapin était mort. Puis c'est à peu près quand même affaire comme l'Antiquité. Là. Les gens étaient aussi brillants que nous, on l'est. Ça n'en prenait autant des évidences assez fortes pour convaincre ce monde-là de changer d'idée, chambarder même toute leur vision du monde et même être prêt à être martyrisé, à tout perdre parce que les gens, les chrétiens là-bas, il n'y avait aucune loi qui protégeait les chrétiens. Ils étaient jetés dehors. Ils se faisaient dévaliser, puis il n'y avait aucune loi qui les protégeait, ils étaient mis dehors, persécutés, puis il y en a qui mouraient pour leur foi. Hey, écoutez, là, c'est des gens aussi intelligents que nous autres, ça prenait des évidences pas mal fortes pour convaincre ces gens-là que Jésus était bel et bien ressuscité. D'accord? Maintenant, Norman Wright, dans son livre, fait la remarque suivante, il dit, il y avait plusieurs mouvements messianiques au cours du premier siècle, et chaque fois, les prétendus messies ont été crucifiés, tout comme Jésus. Mais dans aucun cas, on n'entend une seule rumeur que leur sauveur soit revenu à la vie. Ils savaient que ça ne se passerait pas. Ça n'avait pas d'allure. Car les gens ne sont pas crédules. Ne sont pas dupes. Ça ne passerait pas. Donc, il n'y a eu aucune rumeur de ces prétendus messies que leur sauveur soit revenu à la vie. La résurrection de Jésus était tout aussi inconcevable pour les gens de l'Antiquité. Mais certaines évidences étaient tellement fortes pour les convaincre de se convertir à Jésus-Christ et des millions de personnes se sont converties depuis ce temps-là aussi. Quelqu'un a fait l'observation suivante, qu'il y a autant de preuves de la résurrection de Jésus-Christ qu'il y en a de l'existence de Charlemagne et même Louis XIV. Tim Keller dit dans son livre, « La résurrection de Jésus est un fait historique bien mieux attesté que la plupart des autres événements de l'histoire que nous tenons pour acquis. La résurrection de Jésus est l'explication qui recueille le plus d'indices favorables. » D'ailleurs, Rob Bowman, dans son article, écrit un article où il montre 14 évidences de la résurrection, dont celle-ci. L'une des évidences de la résurrection de Jésus, c'est son apparition après la mort. Il est apparu à plusieurs personnes. Maintenant, dans les tribunaux juifs, tu avais besoin juste de deux témoins oculaires pour authentifier, légaliser un fait juridique. Juste deux témoins. Et pourtant, nous lisons que Jésus est apparu plus de 11 fois. Et ça, peut-être qu'il est apparu plusieurs fois, même plus que 11, mais on en a 11 enregistrés dans les Écritures, dont une fois, 500 personnes l'ont vu. Maintenant, interrogeons l'histoire. Que sont devenus ces grands leaders qui ont marqué l'histoire et ont marqué leur génération? Même l'histoire. L'histoire nous dit qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. C'est le cas avec Confucius. Confucius, dont les principes de philosophie sont encore loi, même en Extrême-Orient, lui, il est mort, il n'est pas ressuscité. On pense à Bouddha, pas ressuscité. On pense en Égypte, quand tu traverses les vallées des tombeaux des rois, où reposent les corps momifiés des grands fondateurs de la dynastie égyptienne. Tous sont morts et ne sont pas ressuscités. On pense à Mahomet, mort, pas ressuscité. Charlemagne, qui a dirigé l'Empire romain de main de maître, il est mort, il n'est pas ressuscité. On pense à Lénine, mort, pas ressuscité. Gandhi, mort, pas ressuscité. Même Napoléon, prisonnier à Sainte-Hélène, il écrit ces paroles. Napoléon qui dit ceci. Il dit, « Alexandre, Charlemagne et moi-même, nous avons bâti des empires. Mais sur quoi les avons-nous bâtis? Sur la force. Et avant même ma mort, mon œuvre est détruite. Jésus-Christ, lui, a bâti son œuvre sur l'amour, et aujourd'hui encore, des millions sont prêts à mourir pour lui. Plus je pense à ces choses, dit Napoléon, plus je crois à la divinité de Jésus-Christ. Il a passé par là, il dirigeait un empire, il savait ce que c'était et ce que ça prenait pour avoir une telle influence. Puis toute son œuvre, son empire, ça a passé. Napoléon repose aujourd'hui dans ce beau sarcophage de granit rose sur les bords de la Seine. Il est mort, n'est pas ressuscité. Napoléon lui-même, frappé par la splendeur, la puissance de Jésus-Christ. Contrairement aux grands leaders de ce monde, plusieurs personnes ont vu Jésus ressuscité. Jésus est apparu plusieurs fois. Et Jésus est apparu assez souvent que des centaines de personnes ont cru dans le Jésus de ressuscité, parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont touché. Et d'autres milliers de personnes ont cru après lui, après les témoins, parce qu'ils ont cru le témoignage de ces témoins qui parlaient avec tellement de passion d'avoir vu Jésus. Et toute leur vision du monde a été complètement chambardée. Ils étaient même prêts à se faire tuer pour Jésus. Norman Wright explique, les premiers chrétiens n'ont pas inventé le tombeau vide, ni les rencontres avec le Christ ressuscité. Personne ne s'attendait à ce genre de choses-là. Un autre indice de la résurrection, c'est que Jésus apparaît à une femme en premier, comme premier témoin de la résurrection. Jésus a choisi une femme. Maintenant, lancez-moi pas de roche. C'est pas de ma faute. Mais dans ce temps-là, c'était un monde très patriarcal. Autant chez les Juifs, les Grecs, les Romains, c'était comme l'homme, c'était l'autorité. T'sais. Et d'ailleurs, tu prenais même pas, les femmes, t'as même pas accepté comme témoin au palais de justice. À justice, là, tu prenais pas les témoins. Mais d'ailleurs, Flavius Joseph, qui était un historien de l'époque du premier siècle, va jusqu'à dire que même mettre une gang de femmes ensemble qui témoignent à justice, c'était même pas accepté. Même plusieurs femmes, c'était pas accepté en justice. Donc, sachant ça, si t'es pour inventer une histoire comme la résurrection, ben, va pas choisir une femme. Vois-tu la logique? Voyons, ça n'a aucune crédibilité dans la mentalité des gens de l'époque dans ce monde patriarcal. T'allais surtout pas choisir une femme comme premier, comme témoin pour justifier ton histoire. Mais non! Va chercher un gars! Hein? C'est maison! C'est une histoire maison tout ton bord, tu sais? Alors, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, Cels, un autre personnage bien connu du deuxième siècle, un médecin, il critique d'ailleurs le christianisme parce qu'il dit le voyant non, il veut savoir si ça a de l'allure un témoin d'une femme. On peut pas en croire, c'est une femme qui l'a vu. Il dit voyons, elle est naïve, c'est une ensorcelée, une hystérique. D'ailleurs, même les disciples, rappelez-vous ce qui s'est passé quand les femmes sont parties à courir puis ont dit hey, Jésus est vivant, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont partis à rire. Même eux autres avaient la misère à croire. Maintenant, ça a changé, hein. Ça a changé. Jésus a choisi, de toutes les personnes qu'il aurait pu choisir, comme premier témoin, c'était qui? Une femme. Et ça, c'est un statement. Et Jésus a élevé la femme. Combien, on voit le Nouveau Testament, connaissant tout l'arrière-plan historique, là, quand tu regardes c'est comment Jésus traitait la femme. Rappelez-vous avec Marthe et Marie, là. Marthe et Marie. Marthe, là, qui fait la bouffe et tout ça, elle est bien occupée, il y a bien du monde, il y a, tu sais, Pierre est là, tout ça, elle mange, tu sais, le barbecue, il roule, là, c'est plein, là, la bouffe, let's go, on travaille fort, Marie, il n'y a pas d'aide de, Marthe n'a pas d'aide de Marie, elle s'en va voir Marie, dit, voyons donc, elle s'en va voir Jésus, elle dit, écoute, va lui dire de m'aider à faire la bouffe, là, écoute, l'ouvrage, regarde, les chips, c'est fini, puis depuis 7 ans, plus rien, là, dis à Marie, venez m'aider, Marie, elle est où? Elle est assise à côté, au pied de Jésus. Une expression reconnue, rabbinique, qui veut dire, elle est assise au pied de Jésus, puis elle étudie la Bible. Dans le fond, elle est en train d'étudier la parole de Dieu, que tu ne voyais pas. Même quand tu rentrais dans une synagogue, ils divisaient ça en deux. Le temps de la louange, tout le monde est ensemble. Quand c'est le temps d'étudier la Bible, oups, Il y avait une pièce à part, ça c'était les cours de doctrine, c'était des affaires d'hommes. Les hommes allaient là, étudier la Bible. Jésus dit, non, moi j'en veux pas de mur, les amis. Moi je enlève le mur, les femmes, les hommes, plus de différence, tout le monde ensemble, étudions la parole de Dieu ensemble. Voyez-vous, Jésus a élevé la femme. Et encore là, il choisit comme premier témoin de la résurrection une femme. Le point c'est ceci, si tu es pour inventer une histoire, va te chercher un gars, va chercher quelqu'un de la société là qui a beaucoup de crédibilité, beaucoup de confiance, tiens, le maire de la ville, va chercher, je sais pas moi, le maire de la bombe, va chercher quelqu'un, tu sais, va chercher quelqu'un d'important, qui a du prestige, un riche et célèbre, pas une femme. Mais voyons donc, tu te tires dans le pied, ça n'aurait pas de crédibilité dans la société. Vois-tu le point, une autre preuve de la résurrection. Les gens l'ont vu, puis ils choisissent une femme. Une autre preuve. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est important de souligner, de se rappeler ici, c'est que Jésus avait déjà prédit sa résurrection. En d'autres mots, la résurrection avait déjà été prédite. Donc, la foi s'appuie, s'enracine dans la vérité. C'est pas une foi aveugle que tu sautes en bas de la falaise, soit Dieu va te retenir. Ben, je sais pas. Peut-être pas. Tu sais, le Seigneur t'a donné une tête. Saint-Ouzan, puis ta tête te dit, t'es-tu malade, saute en bas? Tu sais comment tu te sens, hein? Je sais pas si vous avez le vertige des auteurs. Hey, moi, mon ami, les auteurs, tu sais. Oh, t'es au 10e étage, t'es sur le bord, puis il n'y a pas de clôture, t'es sur le bord, là. Ton cerveau crie et te dit, veux-tu bien reculer? Pas une foi aveugle, idiote. Non, 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 c'est une foi qui est basé, enraciné dans la vérité qui est la parole de Dieu. C'est ce genre de foi-là. La foi, c'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui est enracinée dans la parole de Dieu. Et Jésus l'avait dit plus d'une fois, je vais mourir puis je vais ressusciter. D'accord? Et les prophètes l'avaient dit. Donc, c'est dans la vérité, ça, là. Une foi qui est bâtie dans la vérité. Deuxième chose, la foi relève de la grâce. Quand on regarde Marie, on la voit chercher Jésus. Elle ne retourne pas chez elle. Elle cherche le corps de Jésus. Elle pleure, elle est en larmes, elle est en deuil. Elle dit au jardinier, au verset 15, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je vais le prendre. Je vais aller chercher le corps, je vais le prendre. » C'est évident que elle aimait le Seigneur. Elle a beaucoup d'amour, d'affection pour Jésus. « Donne-moi le corps, je vais aller chercher. » Maintenant, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas réaliser que Jésus est vivant. Pourquoi? Parce qu'elle est spirituellement aveugle. Il y a un voile devant ses yeux. Tant aussi longtemps que Jésus ne va pas intervenir, elle ne pourra pas voir le Jésus vraiment ressuscité. Aussi tendre et aimable qu'on puisse voir cette chère femme, le Jésus qu'elle recherche, qu'elle cherche, n'existe pas. Jésus n'est pas mort. Elle cherche un Jésus qui est mort, qui n'est pas vivant. Et si Jésus attend qu'elle comprenne, ça n'arrivera pas. Avez-vous remarqué la réponse de Jésus? Jésus dit pas, mais il dit, gars, travaille plus fort. Je trouve que tu travailles pas assez fort. Travaille plus fort, cherche Jésus, fais des bonnes œuvres, tu peux m'en dire, tu vois, ça va marcher, tu vas le trouver. Absolument pas. Parce que vois-tu, le salut, c'est pas une question de bonnes œuvres. Tu peux pas, même si tu travailles bien fort, tu pourras jamais t'acquérir le salut. Et Jésus a besoin d'intervenir. Moi, j'aime ce qui se passe ici. Là. Non, écoutez, c'est vraiment frappant. Manquez pas ça. Il y a quelque chose de... C'est vraiment extraordinaire. Faut vraiment pas manquer ce qui se passe ici. Elle est là. Elle est en larmes. Elle est en deuil. Elle pleure. Elle souffre. Pourtant, elle est entourée d'anges. Pourtant, Jésus est juste à côté d'elle. Et elle se sent abandonnée de Dieu. Ça te fait-tu penser à quelqu'un? Non, mais en vrai, hein? Tu sais, quand ça va mal, là? Quand ça va mal, tu te sens abandonnée de Dieu. Pourtant, hein? Jésus est juste là. Là, à côté. Elle pense les jardiniers. Jésus est juste là. Elles ne le réalisent même pas, mais Dieu est en train d'accomplir une œuvre dans sa vie. Elle n'en est même pas consciente, elle pense que Dieu l'a abandonné là. Hey, ça me fait penser à moi, là. Moi, je me vois pas mal en Marie des fois. Les anges sont là, et la Bible dit que les anges sont là au service de Dieu, puis ils ont un ministère, ils exercent un ministère même pour nous autres. Jésus est là juste à côté. Vois-tu ce qu'on a vu la semaine dernière dans le psaume 22 où Jésus avait dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et on a dit que Jésus a été abandonné par Dieu afin que toi et moi, on ne soit jamais abandonnés de Dieu. Amen. Moi, je m'entends des amen. Là. Je pense qu'on est rendu, vous êtes dû, là. Je comprends, là. Jésus a été abandonné de Dieu afin que toi et moi, on ne soit jamais, jamais abandonnés de Dieu. Et Jésus est là juste à côté. Elle n'en est même pas consciente. Dieu est là à l'œuvre dans sa vie. Elle va devenir l'une des femmes les plus populaires de l'histoire. Elle ne le sait même pas. Elle est en larmes. Parce que vois-tu, Jésus n'est pas le Jésus de Marie. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Et c'est ce que Jésus va lui révéler. Regardez bien la question que Jésus va lui poser. Il va lui poser cette question-là. Qui cherches-tu? Maintenant, si c'est vrai, si Jésus n'est pas ressuscité, elle a raison d'avoir perdu tout son espoir. Elle a raison. Le christianisme nous révèle quel est le sens de la vie. Et sans cette révélation-là, c'est difficile de trouver un sens à notre vie. On va être découragé, on n'aura pas d'espoir. Si Jésus n'est pas ressuscité, mon ami. Et ça, c'était le point de Lee Strobel. Lee Strobel, qui était un avocat, est en charge vraiment de toute la section juridique. Il était l'éditeur juridique pour la revue, le quotidien, le journal de Chicago, Tribune. Il était un avocat et journaliste. Et c'est un gars c'est un athée, carrément un athée, il croyait pas en Dieu. Et un jour, il était déterminé à prouver que le christianisme était de la foutaise. Mais là, c'est pas n'importe qui, là, c'est un athée, et deuxièmement, c'est un avocat, et c'est un journaliste. Donc, il a pris, selon les règles de l'art d'un avocat, personne très objective, et un journaliste, Il a été déterminé à prouver que la résurrection, c'était de la foutaise. Alors, il a commencé à faire son enquête, commencé à faire ses recherches. Et il a regardé les évidences de la résurrection au peigne fin, un athée. Et sa conclusion était la suivante. Il est arrivé à la conclusion que la résurrection était tout à fait fiable et vraie. Si bien que cet athée, avocat, journaliste, s'est converti à Jésus-Christ à travers sa recherche pour prouver que ce n'était pas vrai. J'entends-tu des amen? Et ça a changé complètement sa vision du monde. C'était un gars qui avait beaucoup de colère en lui. Il n'avait-tu vu, lui? À Chicago, avocat, journaliste, il en avait vu de toutes les couleurs. Il était plein de colère, bourré de colère. Il rentrait chez eux, sa petite fille qui jouait. Elle courait pour aller s'enfuir dans sa chambre. Elle avait peur de son père. Tellement qu'il y avait de la colère. Il a déjà frappé le mur. Il a fait un trou dans le mur. Il a plein de colère, de rage. Et lorsqu'il est venu à Jésus-Christ, il a changé du tout au tout. Complètement différent. Incroyable. La puissance de Jésus-Christ. Le Jésus de Marie n'était pas le vrai Jésus. Et elle était démolie. Marie était spirituellement aveugle. Elle ne connaissait pas le vrai Jésus. Maintenant, regardez bien ce que Jésus va faire. Jésus va lui poser une question. Verset 15. « Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? » Jésus fait un reproche affectueux. En fait, à ce moment-là, elle n'aurait pas dû pleurer. C'était le troisième jour. Cette journée, ce jour fatidique, où finalement, c'était le jour de la résurrection tel qu'annoncé par Jésus lui-même lors de son vivant et son ministère. Il l'avait fait, annoncé plusieurs fois. Il n'aurait pas dû pleurer, il aurait dû se réjouir. C'était la journée de la résurrection. Et pourtant, elle est en deuil. Sa réponse montre qu'elle n'a pas vraiment compris que Jésus est ressuscité. C'était bien clair, les disciples non plus. Mais la question de Jésus est bien importante. Qui cherches-tu? Quel genre de Jésus cherches-tu? Qui est Jésus pour toi? Dans le fond, ce qui se trouve derrière la question de Jésus est vraiment, Marie, tu m'aimes, mais ton Jésus est trop petit. Ton Jésus est trop petit. Je ne suis pas le Jésus que tu penses. Tu cherches le Jésus qui n'existe pas, celui qui est mort. Et on doit tous se poser la question, humblement devant Dieu, est-ce que mon Jésus est trop petit? Jésus ouvre les yeux de Marie et ça montre une fois de plus que le salut est toujours par grâce. Voyez-vous le salut ici, la vie éternelle? Elle ne peut pas s'acquérir par nos propres moyens. Il n'y avait aucune façon que Marie aurait pu connaître Jésus, le Jésus ressuscité, à moins que Jésus n'intervienne et lui dise, « Hey, c'est moi. » C'est ça le salut par grâce. Maintenant, Marie, et ça c'est vraiment intéressant de s'arrêter là-dessus et de se poser la question, qui était Marie? C'est vraiment intéressant parce que Marie va la choisir pour être la première ambassadrice de la résurrection. Il va en faire un missionnaire. Elle, Marie, c'est qui Marie? C'est qui Marie? Si je te dis c'est qui? C'est quand tu regardes l'histoire dans Luc 8, tu vois que Jésus, que Marie était une fille, une femme possédée des démons. Avant qu'elle rencontre Jésus, c'est une femme qui était possédée des démons. D'ailleurs, le texte nous dit qu'elle était possédée de 7 démons. Et 7, dans le langage sémitique, est une expression idiomatique qui veut dire « foule ». « Foule possédée », là, comme les jeunes disent. Hein? Elle était « méga possédée ». La seule place qu'on retrouve dans le Nouveau Testament où quelqu'un d'autre est possédé d'autant de démons, ça se trouve dans Marc 5, où nous lisons ceci. Marc 5, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Jésus qui rencontre quelqu'un qui est possédé des démons, il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Quelqu'un possédé des démons est si puissant. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'était l'histoire de Marie. Marie était là avant de se convertir. C'était son expérience aussi. Jésus choisit cette femme possédée qui a changé, qui l'a changé, qui l'a sauvée. Non seulement qu'il choisit une femme qui n'était pas tout à fait selon les normes, la convention culturelle de l'époque, mais il l'a choisie pour devenir cette ancienne ensorcelée, en quelque sorte, pour devenir sa première ambassadrice de la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous la grâce de Dieu? La voyez-vous? On la touche, là, ici. On est aux premières loges et on voit la grâce de Dieu, ici. La grâce est criante, ici. Jésus qui est en train de nous dire, « Mon salut est par grâce. » Et c'est pour tout le monde. Regarde son arrière-plan. Il n'a pas choisi quelqu'un de très noble pour être le premier témoin de la résurrection. Il choisit cette femme qui est une ancienne possédée des démons, qui ne se contrôlait pas. Alors Jésus lui dit au verset 17, « Va trouver mes frères. » Il dit leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'elle lui avait dit ces choses. Mais c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Et ça montre encore une fois la grâce ici. Il dit, « Va dire à qui? » Comment est-ce qu'ils appellent? « Mes frères. » « Mes frères. » Ça, c'est les gars qui m'ont renié, là. Les gars qui sont partis à courir, là, qui sont tout enfuis. Puis ils m'ont tous déserté, tout ça, là, ces gars-là. Ces gars-là, là, tu sais, qui blasphémaient, là, tu sais, qui disaient, non, moi, je connais pas Jésus. Non, je l'ai jamais connu. Non, tu te trompes de personne. Moi, Jésus, j'ai jamais vu. Non. Ces mêmes personnes-là, Jésus les appelle mes frères. Voyez-vous la grâce? Hein? Jésus a pas dit, venons dire à ma gang d'ingrédules là-bas, là. Tu sais, juste ça, il fait du bien. Tu sais, il y avait pas mal. T'es décevant, tu sais. Tu te fais trahir par des gens. Allons leur dire, cette gang-là. Là. Et que ça va me faire du bien. Pantoute. Va dire à mes frères. Puis regardez bien ce qu'il dit. Va dire à mes frères. Va dire que mon Dieu est leur Dieu. Mon Père, c'est leur Père. en d'autres mots, va leur dire qu'ils font maintenant partie d'une nouvelle famille. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'adoption, ça. Va leur dire qu'ils sont mes enfants aussi, mes frères. Ils sont comme, sont dans la famille, là, c'est les enfants de Dieu. Là. Va leur dire ça. Vois-tu, la foi repose sur la vérité, là. Elle relève de la grâce et aussi elle œuvre dans l'amour. Regardez bien la réaction de Marie. Regardez la réaction de Marie quand elle découvre que le jardinier, en fait, c'est pas le jardinier, c'est vraiment Jésus-Christ. Verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-le-moi, puis moi je vais y aller, je vais le prendre. » Puis Jésus lui dit, « Marie, mais ça fait étrange, un jardinier qu'elle connaît pas, qui dit Marie. Marie. » Là, d'un coup, ses yeux s'ouvrent, c'est comme le voile t'a enlevé, puis elle reconnaît Jésus. Et là, la réaction, la première réaction, c'est quoi? Elle saute dessus. Saute dessus, l'embrasse, la serre dans ses bras, ça grippe après, ça grippe, là, tellement que Jésus lui dit, c'est pas nécessaire, Marie. Ah, t'es parti tantôt, t'es parti là, t'es mort, t'es parti, mais je te laisse plus partir. C'est pas nécessaire, Marie. Ne me touche pas, c'est pas nécessaire. Ça peut pas vouloir dire, touche-moi pas, parce que juste après, on voit, il dit à Thomas, touche-moi. D'accord? Faut que ça aille un autre sens. Agrippe-toi pas à moi. Tu peux me laisser, là. C'est correct. Je te laisserai pas. Et, dans le fond, Jésus avait déjà annoncé dans Jean 4 à 14, Jean 16, 17, 18, qu'il fallait qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Sans ça, s'il partait pas, le Saint-Esprit pouvait pas partir. En d'autres mots. Et c'est ça que je trouve tellement merveilleux. C'est le Seigneur est en train de dire, sais-tu quoi? Je sais que tu m'aimes, tu m'accroches. Tu sais, puis il me semble qu'il y a des gens qu'on pourrait peut-être dire, bon, j'aurais tellement aimé ça, moi j'aurais sauté dans les bras de Jésus, je l'aurais embrassé. Tout ça. Sais-tu ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il est en train de dire, t'as pas besoin de m'agripper? Il est en train de dire, sais-tu quoi? Si je m'en vais, le Saint-Esprit va venir, puis il va venir dans ton cœur. Puis tu vas sentir l'amour encore plus intensément de Dieu que si je te serrais dans mes bras pour t'embrasser. Réalises-tu ce que le Seigneur est en train de lui dire? Tu vas avoir une révélation de l'amour de Dieu. Si le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, vient dans ta vie, tu vas avoir une connaissance, l'ampleur, la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Si je pars parce que le Saint-Esprit va venir. Et vois-tu, dans le fond, ce que nous sommes en train de réaliser ici, c'est que dans la mesure où je comprends la beauté de l'Évangile, la splendeur de l'Évangile, dans la mesure que je comprends jusqu'où le Seigneur Jésus est allé, quel prix il a payé pour me sauver. Il y a un amour dans mon cœur, une foi qui va exploser envers Dieu. Vois-tu, Jésus l'aime, elle l'aime, et cette expression d'amour s'explose, s'intensifie, proportionnelle à ce que je comprends, ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce qui se passe ici. Exactement ce qui est en train de se passer ici. Il est avantageux que je m'en aille. Avez-vous remarqué comment Jésus l'appelle par son nom, Marie? Et c'est comme si Jésus disait, tu veux savoir qui tu es, tu veux connaître ton identité, tu veux savoir qui t'es, mais connais-moi. Moi, je sais qui tu es. C'est moi qui t'ai créé, tu es unique, je te connais. Si tu veux vraiment te connaître, si tu veux découvrir ta mission dans la vie, c'est en me connaissant, dit Jésus. En Jésus, on devient fils, fille du Père céleste. Nous sommes maintenant membres de la plus belle famille qui soit, qui est l'Église. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Et Dieu ne tiendrait plus jamais compte de nos péchés. Et nous pouvons marcher maintenant joyeusement. C'est Pâques. On peut marcher joyeusement parce qu'on appartient au Prince du Roi des Rois, celui qui vit éternellement. Nous avons de l'espoir. Parce que l'espoir, c'est pas une chose. L'espoir, c'est qui? C'est un qui? C'est une personne. Notre espoir est en Jésus, le Jésus ressuscité. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette histoire si émouvante et touchante de Marie, parce qu'on peut tous se retrouver à quelque part dans le témoignage de Marie. Ses questionnements, ses doutes et ses pleurs, on a été là, Seigneur. Et pour nous, un jour, tu nous as touché notre cœur, tu t'es révélé à nous, tu nous as aidé à comprendre et à connaître le Jésus tel qu'il est révélé dans la vérité de ta parole. Tu as manifesté ta grâce envers nous et ton amour envers nous. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons en retour. Et Seigneur, peut-être qu'il y a des gens ici ce matin qui passent à travers un cheminement spirituel, se posent des questions, des questionnements. Et on te prie que ton esprit puisse les aider à comprendre, à voir ce que Marie a vu un jour. Et peut-être quelqu'un ici vit un moment difficile et elle se sent comme Marie se sentait, se sentir abandonnée de Dieu. Rappelle-lui, Seigneur, que tu es tout près d'elle. Tu es là et tu œuvres dans notre vie. Merci, Seigneur, pour le message de la résurrection. Quel réconfort, quelle assurance nous avons qu'un jour nous entrerons dans l'éternité et tes bras seront ouverts et tu vas nous accueillir et nous pourrons nous agripper à toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen.